Radio Kapi.
Oh, Kapi. À la présentation du journal, Jocelyne Moussa Opondé.
UNICEF alerte sur un risque de malnutrition aiguë en 2018 dans l'espace Kasaï. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont menacés et 400 000 d'entre eux pourront mourir s'il n'y a pas d'assistance humanitaire, indique un communiqué de cette organisation. Des hauts cadres des services publics arrêtés pour spoliation et détournement, c'est sur ordre du conseil spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Anna Alford, chef de mission de Médecins sans frontières au Nord Kivu, est l'invitée de la rédaction ce matin. MSF fait face à plusieurs défis sécuritaires dans ses zones d'intervention. Bonjour à tous. Plus de 2 millions d'enfants congolais de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère en 2018 et 400 000 d'entre eux pourront en mourir dans la région du Kasaï s'il n'y aura pas d'assistance humanitaire. Un cri d'alerte de l'UNICEF contenu dans un communiqué de presse publié mardi. Blaise Ndongala nous le résume.
Selon les communiqués de cette agence du système de l'ONU, ils sont environ 400 000 ces enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï. Ces enfants, alertent l'UNICEF, pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés par des interventions sanitaires et nutritionnelles. Cette situation est due aux violences qui ont occasionné les déplacements massifs et la réduction de la production agricole au cours des 18 derniers mois dans la région. L'UNICEF précise également que les violences et les déplacements des personnes ont entraîné des pénuries alimentaires, les deux tiers des ménages étant incapables de travailler leurs terres pour cultiver. L'insécurité alimentaire sévère affecte maintenant des grandes parties de la région et les conditions ne devraient pas s'améliorer avant juin 2018 car la saison des plantations 2017 ont été perdues. Les familles n'ont pas pu récolter des produits sur leurs terres et ils n'ont rien à vendre sur les marchés, rappelle cette agence de l'ONU. Depuis janvier 2017, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni des soins nutritionnels thérapeutiques à 50 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région du Kasaï. Cependant, il affirme n'avoir reçu que 15% du financement nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants en 2017. Des Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Par ailleurs, le programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, affirment avoir reçu un montant de 10 millions de dollars du gouvernement belge pour appuyer leurs interventions dans le Grand Kasaï. Objectif, améliorer les conditions de vie et de sécurité alimentaire et nutritionnelle de près de 18 000 ménages dans la région. Jean-Pierre Elali, Coco.
Grâce à cet appui financier, le PAM procédera à la distribution d'une ration de farine de maïs fortifié, des légumineuses, d'huile végétale et des sels iodés à 31 000 personnes. À partir de janvier 2018, il utilisera les cash à l'attention de 50 000 personnes. De son côté, la FAO fournira 6 700 ménages de déplacés retournés assistés par le PAM, des kits maraîchers composés d'une houe, d'un râteau, d'une bêche, d'un arrosoir et des 40 grammes de semences de légumes, ce qui permettrait à chaque famille de produire environ 80 kg de nourriture. Ces actions combinées résulteront d'une approche intégrée mise en œuvre par les deux agences onusiennes. Dans 3 à 4 mois, cette combinaison de l'aide alimentaire et agricole permettrait à ces 18 000 familles à la fois un accès durable à l'alimentation et la possibilité de dégager des revenus. Pour rappel, la crise dans la région du Kasaï date d'août 2016. Elle a entraîné une crise humanitaire profonde et des violations massives des droits de l'homme, avec à la clé plus d'un million de déplacés et un peu plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.
Lancement hier à Kinshasa du projet de mise en œuvre du cadre de partenariat du secteur de l'éducation. La cérémonie a eu lieu à la salle Saint-Pierre Clavert du collège Boboto. Ce projet, dont la durée va de 2016 à 2025, vise l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC. Des précisions avec Madame Bella Debobo-Zouali, assistante exécutive du secrétaire général à l'EPSP. Elle est au micro de Nicole Koudiangela.
Ce projet contribue à l'atteinte des objectifs qui ont été désignés dans la stratégie du secteur de l'éducation à hauteur de 100 millions de dollars qui sont un don du Partenariat mondial pour l'éducation. Il s'agira donc de 70 millions en termes de parts fixes et de 30 millions en termes de parts variables qui sont soumis donc à une condition. Le projet va réaliser des activités en rapport avec l'amélioration de la qualité de l'éducation. Nous allons viser pour cela le renforcement de l'éducation de la petite enfance où les enseignants seront également formés. Nous allons viser également le soutien à la chaîne d'approvisionnement en manuels scolaires. Nous allons fournir des manuels scolaires à toutes les écoles privées et publiques de la République démocratique du Congo, mais ce sera cette fois-ci des manuels en langue nationale, notamment pour la lecture et l'écriture. Nous allons mettre en place une cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires pour des évaluations standardisées au sein du système.
En justice, sachez que Frédéric Batoumikié a été condamné hier à la prison à vie. C'est député provincial du Sud Kivu et chef milicien est condamné pour crime contre l'humanité par viol. Arrêté le 21 juin 2016 par la justice militaire, Frédéric Batoumikié a été inculpé pour avoir entretenu une milice. Celle-ci avait attaqué des positions des FARDC et avait violé au moins 46 fillettes de moins de 10 ans entre 2013 et 2016. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, plusieurs dirigeants de services publics de Kinshasa sont tombés dans les filets de la justice. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux a procédé à l'arrestation des hauts cadres de la direction générale de recettes de Kinshasa, du secrétaire général de l'urbanisme et habitat, du conservateur des titres immobiliers de la Gombe et du fonctionnaire dirigeant de l'agence congolaise des grands travaux auprès de la société Zénith. Des précisions avec Jeff Ngoy.
Il est reproché à ses personnalités plusieurs faits. Selon les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, les responsables de la DGRK sont suspectés de détournement de deniers publics. Aussi parle-t-on de la spoliation et vente au rabais des immeubles de l'État par le secrétaire général de l'urbanisme et habitat et le conservateur des titres immobiliers de la Gombe. Il s'agit entre autres de la vente de l'immeuble IAC, de la non-exécution des travaux et le détournement des fonds destinés à la construction des passerelles occasionnant quotidiennement des morts sur le boulevard Lumumba en direction de l'aéroport international d'Ndjili. Et cela en complicité avec le fonctionnaire dirigeant de la CGT auprès de la société Zénith. Plusieurs autres faits similaires sont restés sans suite, notamment l'enquête initiée par le professeur Luzolo Bambi auprès des banques membres de l'ACB. La mission principale du conseiller spécial étant de dénoncer les faits portés à sa connaissance au niveau du parquet. Ce dernier en ouvre un dossier pour instruction et au besoin procède à l'arrestation des suspects.
Dans le même chapitre, parlons également du procès contre les présumés rebelles de l'ADF et leurs collaborateurs. Le ministère public a requis de peines allant de 4 ans de prison ferme à la peine capitale contre les 3 Mouamis, dont un de la chefferie de Watalinda et les deux des localités des Bangachu Luna et Mapakombe Bakongo. Nous sommes là en territoire de Beni où la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a siégé mardi en audience foraine publique. Les détails avec Sekombi Katodolo.
Le ministère public a commencé son réquisitoire par un exposé de faits lors du massacre de Mayangose, Kididiwe, Kadou, Toubameme, Ngadi et Vemba, suivi des éléments soulignés dans le rapport du groupe d'études sur le Congo, des experts des Nations Unies et enfin de la société civile, tout en établissant un lien entre le jour de massacre et le déploiement des FARDC dans la zone. L'organe de la loi a conclu en disant qu'il a désormais posé un visage, un nom sur le massacreur ainsi que le mobile des commanditeurs de ce massacre en se fondant sur la théorie du triangle à trois sommets avec le Mwami Sambili Bamukoka, Boroso Bin Baraka et Kitobi Bonguma. C'est ainsi que pour le premier, il a requis 4 ans de prison ferme et pour le deux derniers, la peine de mort. Rappelons qu'ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, crime contre l'humanité par meurtre, violation des consignes, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Signalons que la Cour prendra la cause en délibéré après les audiences de réplique et contre-réplique avant qu'elle ne rende ses arrêts. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Attaque des casques bleus de la MONUSCO jeudi dernier à Beni. Nous en reparlons avec cette réaction du rassemblement de forces acquises au changement dans le Grand Katanga. Cette plateforme de partis politiques de l'opposition condamne l'attaque qui a coûté la vie à 14 soldats de la paix. Dans une lettre de condoléances adressée au chef du bureau de la MONUSCO Lubumbashi, le RASOP exige, je cite, un châtiment exemplaire pour les auteurs de ces tueries. Fin de citation. On écoute Maître Sonville Mukendi, porte-parole du RASOP Grand Katanga au micro de Denis Mayo.
Nous avons appris avec consternation le message, ça disant qu'il y avait 14 casques bleus qui étaient tombés sous les drapeaux de l'ONU. Ces casques bleus sont venus au Congo pour ramener et consolider la paix dans la région de Beni, à l'est de notre pays. Nous avons fustigé cet acte ignoble de partout où il est venu. Nous demandons à ce que leur nom puisse être inscrit au panthéon des martyrs de la paix dans notre pays. Nous demandons à ce que les auteurs de ces actes ignobles soient punis sévèrement afin de remettre la paix dans cette partie du pays. Nous adressons les condoléances les plus émues à l'endroit de l'ONU, à l'endroit de la MONUSCO et même à l'endroit de la Tanzanie, puisque ce sont les braves qui ont été mis à la disposition de la MONUSCO afin de préserver la paix dans l'est de notre pays.
Et puis cette réaction de la MP Mbujimayi au propos du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, coordination provinciale de Mbujimayi, il y a deux semaines de cela, vous aviez suivi sur nos antennes ces regroupements politiques et dénoncé l'enlèvement et l'agression de son porte-parole John Bombo à la veille de la marche interdite organisée par l'opposition. En réaction, le bureau politique de l'AMP dans la province du Kassai oriental donne sa version des faits. On écoute Freddy Chibwabwa, son coordonnateur, qui s'exprimait mardi au cours d'une conférence de presse à Mbujimayi.
Conformément au premier diagnostic du médecin, comment John Bombo s'est dit séquestré alors que le RASOP déclare qu'il a été jeté dans un ravin. L'AMP condamne le fait que les RASOP soient greffés à un scandale pour justifier le chèque de l'opération ville morte décrétée mais diluée par la maturité de la population est-kassaïenne. Fustige le comportement non citoyen du RASOP qui tend à discréditer le pouvoir public dans une affaire sans tête, sans queue. Par contre, salue la générosité et la promptitude de l'autorité provinciale Alphonse Ngoï Kassange qui s'est empressée d'apporter son secours à un soi-disant victime d'enlèvement.
Direction le Tanganyika, un groupe des députés provinciaux exprime ses inquiétudes suite à l'interdiction des plénières à l'Assemblée provinciale, alors qu'il ne reste que très peu de temps pour que la session de septembre soit clôturée. D'après ses élus, la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a une incidence sur le vote du budget. Ils l'ont dit dans une déclaration à l'issue de leur tête-à-tête avec les responsables du bureau de la MONUSCO Kalemi. Suivez un extrait de cette déclaration lue par les députés provinciaux Koyama Oazo, aux propos recueillis par Expédiment Bamoubi.
Nous, députés provinciaux du Tanganyika, sommes très inquiets devant une interdiction aussi longue de plus de 2 mois. La présente session est une session budgétaire et qui tend déjà vers sa fin. La loi numéro 11/11 du 13 juillet relative aux finances publiques, à son article 182, exige le vote et la promulgation du budget au plus tard le 15 décembre. Or, nous ne pouvons pas accéder à l'hémicycle. Devant cette situation dramatique, nous sollicitons vivement le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC de s'impliquer dans un plaidoyer tout azimut auprès du président de la République, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'obtenir la réouverture des séances plénières avant la fin de la session.
Notez que les plénières ont été suspendues à l'Assemblée provinciale du Tanganyika après des incidents qui avaient mis aux prises les députés proches du président de l'organe délibérant et ceux qui avaient décidé la déchéance de ces derniers. C'était au mois de septembre dernier.
Actualité Afrique Monde.
Au Mali, près d'un millier de personnes ont manifesté hier mercredi contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, une mobilisation à l'appel de la communauté musulmane du pays. Affaire Norbert Zongo, François Compaoré ne veut pas être jugé au Burkina Faso. Le frère de l'ex-président burkinabé, Blaise Compaoré, a déclaré hier mercredi lors de sa comparution devant la cour d'appel de Paris qu'il ne voulait pas être jugé au Burkina Faso. L'affaire a été renvoyée au 7 mars, a annoncé le ministère burkinabé de la Justice dans un communiqué. François Compaoré, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo, avait été arrêté à l'aéroport parisien de Roissy fin octobre. Le Burkina Faso demande son extradition.